rien, ou un peu plus. Puis dans un deuxième temps, ben, vous êtes comme autorisé aussi à un texte qui vous vient, quelque chose dans la Bible, dans l'Ancien ou dans le Nouveau, ben, d'essayer de retrouver la référence pour qu'on puisse le partager ensemble. Ça vous va? Hein, donc, essayez de trouver trois personnes qui veulent bien venir avec vous. Et puis, vous essayez juste d'échanger quelques minutes sur Élie. L'esprit d'Élie, c'est quoi? Et on brûle sur ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Là, ça touche. L'histoire de Jean-Baptiste et d'Élie, quel est le lien? Est-ce que vous avez trouvé des textes, peut-être, certains? Oui, mais j'ai dit à la fin du groupe, on peut prendre le temps d'éventuellement trouver un passage. Personne n'a un passage qui... Je vois Alain dans sa Bible. Oui, ça c'est un texte biblique, bien sûr, oui, il y en a plein. Mais je ne sais pas s'il y avait un texte particulier, juste en deux versets que vous aimeriez lire, je vous laisse là. Mais autrement, oui, je pense que vous avez bien relevé, on reparlera encore de différentes étapes de la vie d'Élie, mais on a bien relevé, je crois, l'essentiel. Et ce qui m'intéressait de travailler avec vous ce matin un petit peu, c'est le lien Ancien-Nouveau Testament, Jean-Baptiste-Élie. Une phrase qui a été dite, je l'ai mise comme introduction, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie ». C'est une phrase que j'aimerais très modestement, hein, qu'après les deux, trois fois qu'on brossera le tableau de cet esprit d'Élie, quel est l'esprit d'Élie, ben, ça serait super si à la fin on pouvait faire cette prière et que Dieu même fasse sur nous cette prière, que nous marchions devant Dieu sans couvercle, c'est-à-dire avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il y a quelque chose dans ce feu d'Élie qui est vraiment d'un autre ordre que simplement la Pentecôte, le Saint-Esprit, etc., qui débloque des choses. Et on va essayer de comprendre un petit peu quelle est cette spécificité dans tous ces récits multiples d'Élie. On ne va pas tous les relire, mais on va essayer de comprendre plus théologiquement avec les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe là. Et donc, de qui est-il dit, à part nous tous, j'espère, bientôt, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça a été dit.
Jean-Baptiste,
voilà. Il sera grand devant le Seigneur, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc Jean-Baptiste, toujours. Et il est dit, ça c'est très intéressant, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. J'ai mis en gras et en lettres majuscules, capitales, préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Quelque chose de particulier, quand l'Esprit d'Élie est renvoyé pour accueillir Jésus, hein, puisque c'est Jean-Baptiste qui précédait Jésus, le but de préparer le chemin de Jésus dans les cœurs, de préparer le peuple, de nous préparer à mieux recevoir Jésus, c'est ce qu'on veut tous, c'est préparer un cœur disposé. Et si on perce un peu ce secret, ce mystère de cet esprit d'Élie, qui est attendu dans des temps clés du peuple d'Israël, qui est attendu dans des temps clés de l'histoire, puisqu'il est attendu au moment de la venue de Jésus et à la fin des temps, on voit que ces trois étapes reviennent toujours dans ces textes prophétiques. Le ministère d'Élie, la venue de Jésus avec Jean-Baptiste et la fin des temps. C'est là qu'il y a l'esprit d'Élie qui se manifeste. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour chambouler tout, ce n'est pas pour réenseigner la loi, mais préparer les cœurs. Et je pense que c'est vraiment sur la chose peut-être sur laquelle on bute le plus autour de nous, dirait Monique, hein, moi j'aimerais que mes voisins non-chrétiens quand même, une fois, ils voient des signes, des miracles, en tout cas qu'ils se convertissent. Quoi. Comment est-ce qu'on peut faire? On fait les cours alpha, on fait ci, on invite. Il y a quand même peu de gens. Et je pense qu'on pourrait se poser la question, est-ce que c'est nos cœurs qui ne sont pas préparés ou est-ce que c'est les cœurs des autres qui ne sont pas préparés? Mais je pense qu'il faut les deux, bien sûr. Et que l'esprit d'Élie est un esprit qui prépare, c'est bien sûr le Saint-Esprit, à chaque fois que je dirais l'esprit d'Élie, vous n'aurez pas un esprit, c'est bien le Saint-Esprit derrière, mais un type du Saint-Esprit, une onction spéciale du Saint-Esprit qui est l'esprit d'Élie, hein. Chaque fois que je dirais ça, vous mettez bien le Saint-Esprit derrière. Voilà, ce n'est pas un esprit comme ça qu'il faut invoquer, mais, ou l'esprit d'un saint ou comme ça, hein. C'est bien toujours le Saint-Esprit. Donc, un esprit qui prépare des cœurs à être bien disposés, donc le peuple de Dieu d'abord, mais aussi le peuple en face qui doit accueillir le Seigneur, accueillir Jésus. Alors on pourrait dire, c'est une interrogation auquel je ne réponds pas, qu'en fait c'est complètement raté. Parce que le peuple au moment de Jésus, n'a pas été bien disposé, le peuple juif n'a pas été bien disposé à accueillir Jésus. Donc là, pour moi, il reste un mystère qu'on peut expliquer par tout un tas de choses, de théologie, de temps, de moments, mais quand même, l'Esprit d'Élie est envoyé sur Jean-Baptiste pour qu'il prépare, pour que le cœur soit bien disposé, et manifestement, eh bien, les cœurs ne sont pas bien disposés, de manière générale, à recevoir Jésus. Pour moi, là, il reste un mystère. Peut-être que vous pourrez travailler la question, me donner des réponses ou des pensées. Je pense, en tout cas, une chose qu'on peut dire, c'est que justement, quand on lit les prophéties, il y a vraiment ces deux temps, la venue de Jésus et puis la fin des temps. Et que Dieu est en route et en chemin et en mission, il s'inscrit sur l'éternité pour disposer nos cœurs qui doivent encore et toujours être bien disposés. Ce n'est pas terminé. Donc, je dirais que c'est notre mission prioritaire aujourd'hui, il l'est dit ailleurs, préparer au désert le chemin du Seigneur, hein, abaisser les montagnes, que les vallées soient comblées. Voilà, il y a tout ce chemin, que ces textes, toutes ces prophéties qu'on lit souvent dans le temps de l'Avent, à Noël. Hein, préparer le cœur du Seigneur, cet esprit d'Élie, Jean-Baptiste, ça, c'était l'appel, que les vallées soient comblées, que les montagnes soient abaissées. Et je crois que c'est notre mission, préparer les cœurs, préparer nos contemporains à recevoir Jésus, mais pour cela que nos cœurs, nous-mêmes, soient déjà préparés. J'aimerais qu'on lise un premier texte qui parle de cet esprit d'Élie, Luc 1, 10 à 17. Luc 1, alors on n'est pas à Luc 1, 77, pour la vision et la préparation de notre mission ici, Mouchard, à la Maison de l'Espérance. Vous savez que c'est le verset qu'on a retenu un peu comme leitmotiv. Mais avant, et je pense que c'est important aussi qu'on voit ces textes d'avant, Luc 1, verset 10. « Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint et d'ailes saintes de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, là c'est intéressant, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Voilà, jusque-là. C'est intéressant que très, très, très souvent, on lit ce texte, on le relira de Malachie, qui dit « ramener les cœurs des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. Hein. » Et à Mâcon, pendant l'époque du réveil, des grandes conventions, l'armée de l'Éternel, la louange, etc., c'était leur verset leitmotiv que le Seigneur disait. Et il y a encore des textes comme ça, des traces de ce temps où c'était ce verset dans les prédications et dans ce que Dieu soulignait, qui était mis en avant par l'Esprit. Il ramènera le cœur des pères et le cœur des enfants au père. Là, entre cette phrase très connue et la dernière phrase qui dit qu'il prépare donc un cœur, que le peuple ait le cœur préparé, entre deux, il y a une petite phrase que je n'avais pas remarquée, où il est dit autre chose. Est-ce que quelqu'un peut la dire, la lire, ou s'en rappelle, ça lui a frappé quand je l'ai lu. Voilà, exactement. Ça, on l'a dit rarement, en tout cas moi je ne l'avais pas remarqué, il ramènera les rebelles à la sagesse des justes. Et je trouve que c'est intéressant, parce que souvent on a souligné ce verset de Malachie, et Malachie ne dit pas cet aspect, il dit que le cœur des enfants et des parents. Et c'est comme si c'était ajouté, comme la prophétie de Malachie ne nous était pas venue tout à fait complète, et que là, quand c'est l'ange qui redit pour Jean-Baptiste, qui souligne qu'il marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie pour préparer les cœurs, il dit ces deux choses, il dit oui, comme Malachie l'a dit, il y a ce cœur des enfants vers les pères, ce cœur des pères vers les enfants, mais il ajoute une deuxième notion que j'appellerais justice-vérité, c'est-à-dire de faire passer les rébellions, les révoltes, l'amertume, qui sont transcendées, changées, pour écouter la sagesse des justes. Et si on prend ces deux actions, il me semble qu'il y a deux choses clés qui pourraient vraiment nous aider dans nos vies, dans cet esprit d'Élie. On lit les récits des miracles, donc ça c'est facile. Mais moi aussi, j'aimerais remplir des vases d'huile puis qui se multiplient pour nourrir tous les pauvres. J'aimerais ressusciter des morts. J'aimerais, voilà, ces choses qui soient fortes. Mais ça, c'est peut-être l'aspect de la tempête, des arbres qui cassent, du souffle violent qui vient. Les miracles, c'est peut-être aussi le grand soleil qui brille et des choses comme ça. Mais on voit que dans sa caverne et dans ses temps de dépression, de remise en question, il a dû être nourri, il a dû être fortifié, il est descendu plus au fond de lui-même. Et là, il a compris que finalement, Dieu parlait avec un souffle subtil et léger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fois où il parle de manière forte, hein. Mais dans ce qu'Élie a dû comprendre, il dit bah, « Dieu n'était pas à ce moment-là dans la tempête ». D'autres fois, il est dans la tempête, il est dans tout, hein, donc il ne faut pas opposer les choses. Il est aussi dans les choses qui sont avec fracas et puissance et tout ça. À Pentecôte, ça a été magnifique. Voilà, il y a d'autres. Mais à ce moment-là, dans ce qu'Élie a dû comprendre, dans sa déprime, après avoir vu les coups d'éclat avec les prophètes de Baal, etc., pour aller plus loin dans sa déprime, comme nous, ça nous arrive aussi, je pense, hein, des fois on est en haut, puis des fois c'est plus dur, hein, il y a des temps difficiles dans la vie. Eh bien, ce qu'Élie a dû comprendre, quand ça s'enracinait dans la vie plus profond, quand ça descendait à des niveaux qu'on aime peut-être un peu moins, hein, c'est pas au début qu'il a compris que c'est un souffle subtil et léger, le Saint-Esprit, puis après il grandit dans la sainteté, dans la puissance, plus d'heures de louange, plus d'onction, plus de miracles, plus de jeûnes, et puis on arrive au sommet, ça c'est le grand coup d'éclat. Nous, on a des fois un peu cette tendance. Dans la vie d'Élie, on s'aperçoit qu'il y a eu les grands coups d'éclat, les grandes forces, etc. Puis l'approfondissement, la construction, le progrès, la maturité, c'est peut-être plus venu avec des temps plus difficiles, puisqu'il était jusqu'à la déprime, où il était nourri par plusieurs anges, et à plusieurs fois, ça ne lui suffisait pas, il a dû être de nouveau rendormi, tu manges, enfin pas tu manges, mais mange, etc. Et après, il comprend que c'est une voix subtile. Donc j'aimerais que ce matin, on puisse entendre un petit peu quelle est cette voix, moins coup d'éclat, mais plus subtil, ce souffle léger au fond de la caverne qui peut entendre. Et là, on entend un souffle fort qui nous dit. Deux actions de cet esprit annoncé par Malachie, prophétisé pour la fin des temps, prophétisé sur Jean-Baptiste, rappelé là par cet ange qui vient donc annoncer la naissance de Jean-Baptiste, qui prépare les cœurs. Bien, comment cette préparation? Deux actions, une action amour-communion et une action justice et vérité. Intéressant. Donc, amour et communion, ramener, Stéphane le disait dans notre groupe tout à l'heure, j'ai bien aimé, on l'a chanté dans un chant aussi, « Tiens-nous cachés, unis-nous en cet instant hein, », il y a un des chants qui parle de l'Esprit Saint comme ça, « Tiens-nous cachés, unis-nous dans cet instant », c'est vraiment cette action de communion, il ramène les cœurs des pères aux enfants, il ramène les enfants au cœur des pères, il ramène les cœurs des ministères au peuple, il ramène le peuple au cœur des ministères, il ramène les hommes auprès des femmes, les femmes auprès des hommes, il ramène les pauvres auprès des riches, les riches auprès des pauvres, il fait une action de communion comme ça du corps, donc c'est vraiment cet amour-communion, préparer nos cœurs. Et je pense qu'effectivement, hier on avait, peut-être que certains ont vu le fameux mariage, hier. Et comme Réjeanne, j'ai aussi trouvé, on regarde avec Catherine un petit bout de la prédication. Alors pourquoi je disais que, je fais juste une parenthèse, parce que si vous le découvrez, c'était un peu moins drôle parce qu'après j'ai découvert que c'était un pasteur qui était pour l'homosexualité. Donc c'est pour ça que juste, ça m'a un peu cassé le truc. Mais alors, une prédication où ils ont entendu l'appel de l'amour de Dieu d'une manière forte, extraordinaire dans ce mariage. Il était enflammé, ça a secoué le Gotha. Et c'était vraiment très très beau dans ça. Il y avait le... Absolument, ouais, à des, je ne sais pas combien, 4 milliards de téléspectateurs, je ne sais pas quoi, vraiment entendu un message enflammé de l'amour de Jésus et de le recevoir. Donc, il disait le monde, imaginez comment le monde serait changé si vraiment on obéissait à ces paroles de l'amour, du pardon, de la réconciliation sur Jésus-Christ. Quoi. Vraiment, il a un appel fort. Mais bon, donc cet amour-communion, nos cœurs, si vraiment, c'est pour ça que ça me faisait penser à ce message, si nos cœurs, déjà nous, préparés pour accueillir le Seigneur, pour accueillir les autres, étaient préparés par cet esprit d'Élie, hein, les miracles, tout ça, les craquements, bien, mais plus loin et plus profond, cet amour-communion ramenait les uns vers les autres, les gens différents, des théologies différentes, des conceptions, ceux qui sont... tout dans l'excitation de l'Évangile, ceux qui sont plus dans la méditation, voilà, travaillons ensemble, ramener les cœurs des pères vers les enfants et les enfants vers les pères, donc c'est préparation des cœurs, quel témoignage pour d'autres, et aider d'autres, nous savons, vous savez, ce qui est confié, quand Paul essaie de décrire quel est le ministère au fond qui nous est confié en tant qu'Église, c'est le ministère de la réconciliation. Donc là, on est vraiment au cœur de ça. Nous, on entend toujours comme évangélique, réconciliation, c'est que tes péchés soient pardonnés. Donc la conversion, nouvelle naissance, c'est là, tu te mets à genoux devant la croix et puis tu es réconcilié. On accentue là-dessus et c'est juste. Mais c'est qu'un petit, non, c'est un grand, pardon, aspect. Mais c'est qu'un aspect du ministère, la réconciliation. Nous sommes les agents, les ambassadeurs du royaume de Dieu dans ce monde pour apporter la lumière, donc pour apporter aussi la paix, pour apporter aussi une sagesse. Hein, voilà. Et là, il y a vraiment, je pense, cette communion dans laquelle nous pouvons appeler cet esprit d'Élie avec Monique pour que nos voisins soient touchés. Pas juste qu'il y ait des miracles, mais le plus grand miracle, c'est que mon cœur soit touché, préparé dans la communion, que je sois moi-même réconcilié avec ceux qui sont autour de moi, réconcilié avec ceux qui sont différents de moi, pour être en paix si je veux être porteur de ce message de la réconciliation. Puis le deuxième aspect qui est lié et qui n'est pas dans Malachie, mais qui est comme une précision de l'ange pour ce qu'il y a vraiment besoin pour que nos cœurs soient préparés, ce n'est pas seulement l'amour communion, l'amour compassion, l'amour unité, mais c'est cet équilibre avec la justice vérité. Et je trouve tellement beau, hein, on dit toujours, vous savez, il n'y a pas d'amour sans vérité, puis il n'y a pas de vérité sans amour. Tous ceux d'ailleurs qui sont contre un peu l'œcuménisme ou l'unité, ils disent, oui, mais l'unité c'est bien joli, mais il faut que ce soit dans la vérité. Hein. Puis tous ceux qui sont dans la vérité, on a envie de leur dire, oui, d'accord, mais si la vérité elle casse et elle détruit, tu n'as rien gagné, parce qu'au-dessus de tout ça, c'est quand même l'amour. La plus grande des choses, c'est l'amour. Et quand il a cité, on en parlait à la retraite là, des équipiers, quand l'évangile est résumé, et toute la loi est résumée de l'Ancien et Nouveau Testament, c'est tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain, c'est l'amour. Et quand ailleurs dans la théologie il veut prendre les grandes vertus théologales, comme on apprend, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est la doctrine? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'histoire de l'Église? Est-ce que c'est les ministères? Qu'est-ce qu'il y a au sommet? Et bien, il ne dit même pas la vérité. Il dit la foi, l'espérance et l'amour. Il ne dit même pas la vérité. Il aurait pu qu'à me dire la justice ou la vérité. Parce que la justice et la vérité, c'est important, vraiment. Mais quand il résume ses vertus théologales, eh bien, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Ce n'est même pas la vérité et la justice. Pourtant, on sait la place que ça a dans le cœur de Dieu. Hein. Donc, il faudrait vraiment dire, c'est l'amour au-dessus de tout. Mais, néanmoins, on ne peut pas rester que dans réconcilier les pères et les enfants. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il y a cette notion de toucher à la rébellion et aux révoltes des cœurs. Et ça, je pense, chers amis, qu'en France, on a particulièrement besoin de l'entendre. On est frappé de la différence avec Catherine, comme de plus en plus qu'on voit entre certaines choses, entre un pays et un autre. Moi, je ne suis pas trop pour des esprits territoriaux et sur des pays et tout ça, mais je pense quand même qu'il y a vraiment des choses sur les nations. Et là, c'est vrai qu'on voit un esprit de contestation, de rébellion sur la France qui est différent, qui n'est pas en Suisse. Il y a aussi, les gens sont aussi pêcheurs en Suisse, hein, autant, mais différemment, c'est ça. Et là, en France, on a particulièrement besoin d'entendre cette question de justice-vérité, cet esprit d'Élie. Eh bien, il nous amène à nous interroger sur nos rébellions, sur nos révoltes. Ce n'est pas, je rappelle, juste pour préparer les autres pour qu'ils reçoivent le Messie, nos voisins, mais c'est nous-mêmes dans nos cœurs. On a besoin d'être préparés. Et peut-être qu'avant de voir le voisin se convertir, parce qu'on n'a pas des miracles, il ne se convertit pas, non. C'est peut-être juste parce que notre cœur, à nous, il n'est pas encore travaillé, suffisamment préparé par rapport à l'amour-réconciliation avec les autres, mais ça, voilà, on le fait, je crois, on l'enseigne, mais aussi par rapport à la justice-vérité, par rapport à ces rébellions qu'il y a en nous, ces révoltes en nous. On est des fois révoltés, il y a des choses qui nous agacent, qui nous escagacent, comme disait une grand-mère, hein, des choses qui en nous vraiment réagissent. Eh bien, Dieu nous dit dans ce texte qu'il veut vraiment ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, eh bien, les rebelles à la sagesse des justes. Nous sommes, je suis rebelle, je suis souvent dans une attitude qui n'est pas juste par rapport à certaines choses qui se passent. Si ce n'est pas par rapport aux hommes et aux femmes, des fois c'est par rapport aux circonstances. Où on est comme Balaam sur son ânesse, hein, c'est des circonstances qui ne vont pas, et il la bat, il la tape, il veut y aller. Et puis l'ânesse avait vu un ange qui barrait le chemin que lui n'avait pas vu. Et je prie dans ma vie, je me dis, mais Seigneur, fais-moi grâce de ne pas donner un coup à l'ânesse pour qu'elle avance, parce que je crois que c'est juste. Alors qu'elle a été plus sage que moi. L'ânesse a vu l'ange, moi je n'ai pas vu l'ange. Et des fois, on doit persévérer dans des situations, mais des fois, ce n'est pas de la persévérance, c'est de l'entêtement qui est dû à une sorte de rébellion, de révolte contre la circonstance. Hein. Il n'était pas content, il ne voyait même pas que l'ange barrait le chemin. Hein, il frappait son ânesse. Et je pense que c'est important qu'on s'interroge, au lieu de voir si le voisin n'est pas converti, peut-être se dire, est-ce qu'il n'y a pas en moi des fois un ange que je ne vois pas et je suis en train de frapper mon ânesse, là je veux avancer, faut que ça marche. Et en fait, c'est une rébellion. C'est contre les circonstances. Pas contre quelqu'un, mais contre les circonstances. Donc, vous voyez, je pense que là, on a vraiment des valeurs changées. C'est une préparation pour notre cœur. Dans cet amour-communion avec qui j'ai besoin encore d'être réconcilié, pas forcément demander pardon à mon mari ou à ma fille, et ça, je crois qu'on le fait, puis on l'entend plus longtemps, mais ça va beaucoup plus loin. Dans cet esprit de réconciliation, est-ce que j'ai besoin d'être réconcilié, ne serait-ce que d'être en paix par rapport avec les patrons, par rapport aux ouvriers, par rapport au Parti socialiste, par rapport au gouvernement, par rapport aux catholiques. Ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut dire juste je suis en paix. Voilà. Je ne suis plus dans une attitude qui fait que je suis... voilà. Dieu veut préparer nos cœurs avec un amour communion, avec une paix qui vient là. C'est son doux souffle, son souffle doux et subtil qui vient là mettre quelque chose en nous. Je répète bien, il ne s'agit pas d'être d'accord, d'approuver les choses, mais je suis en paix. Je suis réconcilié avec moi-même et devant Dieu par rapport à ça. Je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a ces difficultés, je ne suis pas d'accord, mais je suis en paix. Donc, j'ai pu être réconcilié avec moi-même, pas avec la personne peut-être qui n'est pas d'accord, hein, parce que, mais voilà, je suis en paix avec moi-même. Et puis, je dis non à ces rébellions, ces révoltes. Je suis dans l'amour, la communion, la justice et la vérité. Voilà quelque chose que j'ai trouvé de cet esprit d'Élie dans ce Luc 1, 10 à 17. Donc, je redis quelques mots encore sur le ministère d'Élie. On en a mentionné plusieurs. Moi, j'ai noté donc un homme de prière, puissance de signes et de miracles. Il ouvre la rivière aussi avec son manteau, hein. Il y a des résurrections, il y a une super confrontation avec le monde spirituel vis-à-vis des 450 prophètes de Baal. Vous savez, ce qui est intéressant avec cette histoire, dans les coups d'éclat, c'est qu'en fait, je pense que vous l'avez déjà entendu, moi je ne l'avais pas entendu, maintenant je l'ai entendu, mais au début de mon ministère je ne l'avais pas entendu, ça m'avait frappé. Moi j'étais sûr que cette confrontation, elle était juste et qu'il était jusqu'au bout de tuer les prophètes de Baal. Et en fait... parce que c'était comme vouer les choses par interdit, vous savez, il ne fallait rien prendre, aller jusqu'au bout de la chose, donc tuer, etc. Ça faisait pour moi partie d'aller jusqu'au bout de la mission. Jusqu'au jour où on m'a dit, mais en fait, Dieu n'a jamais demandé à Élie de tuer ses 400 prophètes. Ou ses 450, je ne sais plus, ses 450, je crois. Dieu n'a jamais demandé qu'il les tue. Je trouve que c'est intéressant s'il se posait la question, s'il y aurait eu une autre action possible, et que si après aussi, en ayant versé le sang comme ça, fait un carnage, est-ce que c'est aussi ça qui a pu l'amener dans la déprime ou la défaite, ou que Jézabel ait été courroucée, etc. On a vite fait de tout mettre sur Jézabel, mais voilà. Est-ce qu'il devait vraiment tuer ces 450 prophètes? On peut se poser la question. Et puis donc, comme on l'a dit, il a été repris au ciel par un char de feu, hein, c'est pour ça qu'on dit char d'Israël et sa cavalerie. Voilà, c'est quelque chose de beau. Quelqu'un l'a relevé aussi, c'est un des rares qui a été présent à la transfiguration avec Moïse. Hein. Donc Moïse symbolisait la loi, toute la loi. Il aurait pu y avoir d'autres hommes de l'Ancien Testament, mais Moïse, c'est lui qui a reçu les 10 commandements, donc symbolisait la loi. Et puis Élie, ben, il aurait pu y avoir d'autres prophètes, même Élisée, puisqu'il avait reçu une double portion. Mais non, c'est Élie qui a été pris pour symboliser le prophétisme. Hein. Donc la loi, les prophètes, et Jésus au milieu, la transfiguration. Et, comme vous l'avez bien relevé, Réjeanne en particulier, un homme comme nous, parfois fatigué, découragé, même dépressif, qui va jusqu'à la mort. On peut lire Jacques 5, versets 16 à 18, et pour aujourd'hui, on terminera là-dessus. Jacques 5, 16 à 18. C'est dans le texte de l'onction d'huile. Hein. Quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui un l'onguent d'huile. Et le verset 16 à 18 dit ceci. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisa son fruit. Produisit. Il dit produisa. Produisit son fruit. Si on devait résumer la vie d'Élie, on pourrait le résumer avec ce texte en disant ceci. Un homme comme nous, un homme qui prie avec insistance, et un homme qui pria de nouveau. Intéressant, si je prends les trois termes qui sont dits sur Élie dans ce texte. Un homme comme nous, un homme qui pria avec insistance et un homme qui pria de nouveau. C'est une biographie, j'ai marqué biographie intéressante à publier. Je vous pose la question comme une interpellation par rapport à ce qu'on a dit ce matin. Dans ce style-là, Élie était un homme comme nous. Élie pria avec insistance, puis Élie pria de nouveau. Sous ce même genre littéraire, dans ce même style, quelle serait la vôtre? Je vous invite à réfléchir quelques instants en silence. Élie était un homme comme nous. Élie pria avec insistance. Élie pria encore. Si c'était ta biographie qui était écrite de ta vie, quelles trois phrases sur ce style-là pourrait-on mettre? Dans nos cœurs. C'est bien, merci Angarad de dire le mot persévérance. On pourrait avoir une biographie comme ça. Réjeanne était une femme comme les autres. Néanmoins, elle persévéra dans ses épreuves et elle persévéra encore. On prophétise ça sur toi. Voilà, on va prier. Seigneur, merci beaucoup pour ce texte sur l'esprit d'Élie qu'on commence. Merci pour toutes les richesses qu'on va encore découvrir. Et je te prie ce matin sur ce premier aspect de cet amour-communion, cette justice-vérité, sur cette prophétie de quand Jean-Baptiste devait préparer les cœurs. Eh bien, tu as dit, il ramènera, il réconciliera les cœurs des pères, des enfants des pères. Tu as dit aussi, il pourra ramener des révolté à la sagesse des justes. Seigneur, je te prie que tu prépares nos cœurs pour les temps qui viennent avec cet esprit de réconciliation, d'amour, de communion avec celui qui est différent, qui est autre. Et viens aussi nous toucher par ta justice vérité pour abattre en nous tous les murs de révolte, de rébellion, d'amertume. Seigneur, nous voulons être dans l'amour communion, dans la justice vérité, avec ce souffle doux et léger, cet esprit fort de la puissance d'Élie, pour préparer nos cœurs et préparer aussi notre mission dans ce monde. Amen.